Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, aujourd'hui je vais lire la dernière partie du livre de Nicolas Mathieu, Le ciel ouvert, publié en février dernier chez Actes Sud et illustré de dessins d'Aline Zalco. Je vous rappelle qu'il s'agit de microfictions que Nicolas Mathieu avait publiées sur Instagram et dont j'ai sélectionné une partie. Elles évoquent le désir, l'attente, l'amour et son contraire, le bonheur intenable, la vie d'écrivain, les trains, les rencontres avec les lecteurs, la solitude dans une chambre d'hôtel, les bars, les bords de mer, les saisons, l'enfance, sa vie de père, sa vie de fils, la vieillesse et ce seul mot d'ordre, accroche-toi et surtout ne cède rien de ta joie. Après toutes ces années, à faire ce qu'il fallait pour son mec, ses mômes, faire carrière, être heureuse, après cette inquiétude immense de réussir sa vie, elle retrouvait avec un peu d'amusement le douloureux plaisir d'attendre un signe. Elle découvrait au passage que le monde avait bien changé. On ne rêvait plus d'un coup de fil, on n'allait plus chercher une odeur sur une carte postale. Tout se passait désormais dans le désordre des réseaux. Il fallait deviner l'autre au détour d'un post sur Facebook, croire à un hashtag. Son cœur tout à coup s'affolait à la lecture d'un tweet ambigu. Elle perdait son temps, s'enfermait aux toilettes pour consulter son téléphone et vivait ce temps fébrile des amours actuels. C'était ridicule et merveilleux, elle s'amusait. À un moment, tout devient léger et grave. Et tu sais que 20 ans plus tard, tu auras encore en tête le souvenir de cet après-midi de printemps où il ne s'est rien produit de spécial, seulement le ciel voilé, l'orage tout proche, le risque d'aimer, ce retour en voiture sous une pluie battante et tes mains sur le volant, fermées comme pour se battre. Il regarda son dos, sa nuque, les cheveux qui faisaient un chignon bâclé, planté d'un crayon de couleur. L'histoire des femmes et de leur faiblesse était un mensonge. Cette architecture-là pouvait tout, tenir des enfants et plier, devenir un fleuve ou bien un pont, se courber sur une machine ou sous une lampe, recevoir des caresses, des coups, des colères ou la sueur d'un homme. Sous la peau, le muscle et l'os faisaient leur impeccable roulement. La délicatesse était une ruse de caméléon. Elle était forte, increvable, dans son désir et ses obstinations. Et les deux fossettes au bas des reins le guettaient comme les yeux fixes d'une bête de somme. Alors il se pencha pour la mordre. L'ayant longuement regardée, il lui demanda ce qui la rendait triste. Elle sourit. Elle n'était pas triste, au contraire. Et elle s'étira comme un grand chat dans le lit défait. Les pieds en pointe, ses bras étendus, ses longs cheveux rendus fous par la chaleur et les caresses. Tout se poursuivait ainsi, à chaque fois mieux et toujours pire. Il n'était évidemment pas question de tristesse entre eux. Les jours filaient à toute allure, ils se voyaient une heure, puis retournaient à leurs affaires, le ventre content, les idées en bataille, avec des courbatures et un peu de bonne fatigue sous les yeux, dans leur tête. Une place était continuellement occupée par ce beau souci de l'autre. Quelques jours plus tard, il trouva dans sa valise un vêtement qui ne lui appartenait pas. C'était un minuscule vêtement de femme, simple et noir. Une étiquette H&M trop longue dépassait. Il le porta à ses narines et reconnut l'odeur familière de ce corps absent. Une odeur qui renfermait des formes, quelques heures, une ville et des saisons, une odeur capricieuse et compliquée qui disait des habitudes et des coups de chaleur. Il regarda ce pauvre morceau d'étoffe venu d'Asie qui était tout son trésor. Un rien de souvenir, industriel et répliqué comme un Polaroid, un soldat de plomb, une pince à cheveux. Il espéra qu'elle l'avait laissé là sans hasard, par malice et par tendresse. Sa gorge alors se serra et il connut l'étendue exacte de son absence, une Europe et l'océan. À chaque fois, il était surpris d'avoir accès à ces gestes-là, naturels, mécaniques, toujours nouveaux, qui étaient dans l'espace comme une signature. Elle se rendait dans la salle de bain, se lavait, accroupie. Elle relevait ses cheveux, un élastique entre les dents, retirait son jean en balançant des hanches, quittait la chambre en courant sur la pointe des pieds, approchait son visage du miroir et d'un doigt remettait de l'ordre, vérifiait sa joue, lissait son sourcil. C'était ça la vérité de son corps. 1000 attitudes que les autres ne voyaient pas. Des gestes qu'elle réservait à la nuit. Lui seul avait finalement droit à cette impudeur. Il n'en disait rien. Un mot aura peut-être annulé ce laisser-passer dans les coulisses, le don silencieux de son envers. Dans leur monde sans règles, sans habitude, sans échappatoire, l'attente était un repère. Il disait « Demain je t'attendrai » et elle pouvait y croire. Elle lui envoyait un message « Attends-moi, j'arrive ». Et son espace à lui, son temps, son vide prenait un contour, il espérait. La patience était leur nouvelle vertu. Le tic-tac d'une montre, leur chanson entêtante. Ils conjuguaient chaque verbe au futur « Demain, tu seras là ». À l'heure secrète, le jour dit, elle venait. Il fallait alors éplucher le malaise, les non-dits, toute cette vie du dehors accrochée à ses vêtements, cet interminable souci. Pour l'aider, il y avait du vin, elle fumait, et cette réticence involontaire peu à peu tombait. L'aventure de chacun pouvait alors commencer. Il est tard, une femme tourne le dos, accoudée au balcon. Là-bas, la télé des voisins qui fait son halo bleu, un parking, 3 lampadaires, il y a des chats, des voitures, et le ramadan a commencé depuis jeudi. Dans ce moment, nos mains ont l'adresse des pickpockets. Viens, le temps presse. Dans les draps, tout à l'heure, il faudra tout refaire, le silence et puis le bruit. Dépêche-toi, demain tout recommence, ton absence, ma rage et le mariage du prince Harry. Il ne trouvait plus les façades monotones, les gens étaient un décor et le poids des rares retrouvailles donnait à leur emploi du temps une courbure accélérée. Tout allait bien, oui. Mais cette histoire en mûrissant prenait une saveur d'agrumes. Avec la douceur venait aussitôt une minuscule piqûre, un avant-goût d'autre chose, comme une prémonition ambiguë. Il n'osait pas se le dire, mais c'était là, une acidité avant-coureuse. Une promesse de déplaisir. Et à mesure qu'ils s'aimaient mieux, il leur devenait plus douloureux de penser à la fin. Ce serait dans un mois pour les vacances, ou plus tard, à la rentrée, l'année prochaine, ou dans 2 ans. Peu importe, ça viendrait. Ils ne seraient pas tristes alors. Ils éprouveraient simplement ce chagrin sans regret, ce sentiment du temps révolu qui porte le beau nom de mélancolie. Par avance, elle s'y essayait. Enfin, ils avaient été heureux comme des criminels.
D'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire. On flaire, la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la guerre, la superbe. Dieu merci, à la merci de l'amour crasse. D'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un sacrifice. D'une mort à crédit, d'un préjugé, d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la gagne, la superbe. Dieu merci à la merci d'un imbutal. Du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci à la merci d'un lampadaire. D'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire. On flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Ce soir, je dirais tu, parce que c'est peut-être la seule manière de m'adresser à chacun plutôt qu'à tous. Tu es devant ton écran et je ne te connais pas. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'imaginer ton existence. Tu as des enfants, peut-être deux, ou tu n'en as pas. En tout cas, il est tard et tu es fatigué. Aujourd'hui, tu es allé bosser, tu as fait ton compte de corvée, tu as eu ton lot de plaisirs et de contraintes. Ou tu as emmené les petits à leurs activités, tu as fait la navette de la danse au tennis, du piano à la céramique. Tu n'as peut-être rien fait du tout que compter les secondes et attendre ce qui ne vient plus. Peut-être que tu es seul chez toi ou que tu voudrais l'être. Ou alors quelqu'un est tout près, quelqu'un que tu connais si bien que tu ne fais même plus l'effort de l'aimer comme il faudrait. Dans ton salon, la lumière est faible pour ne pas contrarier la télévision. Tu penses à demain, le réveil trop tôt, tu penses à tes prochaines vacances, à la librairie où tu iras, au repas qu'il faut préparer, à un collègue qui t'a tapé dans l'œil, à ton père qui n'est plus là. Tu penses à ton lit et aux examens de la grande, aux devoirs des petits, à ton régime, à ton cœur, à ton compte en banque. Tu penses que la vie n'est pas un roman. Ce soir, tu nous as écoutés raconter toujours ces mêmes histoires de sort qui se rebiffent et de colère contre l'ordre des choses. Je n'ai pas de conclusion, pas de savoir spécial à te donner pour finir. Je suis comme toi, je n'ai que cette pauvre vérité en magasin que je me répète à moi aussi. Ne cède pas ton temps en vain, ne vends pas ta force à vil prix. Ne crois pas les « c'est comme ça », les « que veux-tu qu'on y fasse ?» Ne donne pas ton sommeil à ceux qui le muent en or. Réserve-toi le plus possible pour la joie. Écoute-moi. Tu n'as qu'une vie, défends-la. Toute l'enfance, on s'imagine que les adultes savent ce qu'ils font. Chaque jour, ils partent bosser, ont des carrières, font semblant chacun dans leur coin, choisissent des yaourts ou leur voiture, rentrent crevés du boulot, vous bordent et tout recommence. Ils savent lire les cartes routières, faire pousser des tomates et parfois même s'aimer longtemps. En réalité, je vais te dire, personne ne sait rien. Tous à notre mesure, nous repoussons pauvrement le désastre, celui du temps, des autres, de notre impuissance, des grands chagrins qui vous prennent quand le volant de badminton est retombé chez le voisin. Et un dimanche, plus chaud, plus désert que les autres, on fait ce qu'on peut une nouvelle fois. À partir de là, les jours seront plus longs, les appels plus loin, et je t'imaginerai dans ta nouvelle école, avec les copains à se faire, la rue où tu courras, ta nuque brûlante dans ton lit tard le soir, l'odeur de tes cheveux que tu ne veux jamais laver, ça pique les yeux. Les adultes font ce qu'ils peuvent, et aujourd'hui je ne peux pas grand-chose, tu sais, à part contempler le grand vide de ta chambre et t'attendre. T'attendre tout le reste de ma vie. Ton enfance est loin aujourd'hui. Tu n'es plus si pressé de voir le temps passer et les vacances venir. Ce corps sous tes yeux, c'est aussi une promesse. Tu penses à ton fils qui a passé la nuit dans une cabane perchée dans un arbre. Tu le racontes à ton père et ça le fait rire. Un jour, il te demande de l'aide pour retirer son t-shirt et tu vois, pour la première fois depuis très longtemps, sa poitrine, les poils blancs, son ventre gonflé, ses bras réduits à rien. Ce sont pourtant ces mêmes bras qui t'ont porté autrefois. Les photos de vacances le prouvent, tes souvenirs aussi sont là, qui te l'assurent. Et les voilà si peu de choses à présent, ces bras qui t'ont tenu, soulevé, entre lesquels tu n'étais rien, avec ces mains qui te rattrapaient quand tu tombais de vélo et que te donnaient des gifles quand tu répondais mal. Il fait très beau derrière les rideaux baissés et dans cette chambre trop petite pour contenir tout le mobilier ancien, tu ne reconnais plus ce corps qui a servi à te nourrir, à t'habiller, à avoir des baskets neuves et une trousse Crix à la rentrée. Ce corps qui a travaillé presque 50 ans pour te protéger, que tu aies chaud l'hiver et la mer l'été. Ce corps dont tu as cherché la chaleur et que bien plus tard tu as détesté de toutes tes forces parce qu'il te faisait obstacle quand tu voulais sortir boire avec les copains, quand tu voulais vivre les choses et donc le tuer. Et le voilà qui finit là, pour de bon, sous tes yeux, dans la lumière diffuse de juillet. Tu fus si fort et nous nous sommes tant battus. 15 ans de dispute parce que la politique, le shit, ton autorité sans explication, ton héritage de claques et de mots ravalés, parce que père et fils et qu'on ne savait rien faire d'autre. Il y aurait de la matière pour 20 ans de thérapie, toi qui n'as jamais vraiment cru à la parole et qui, si on te parlait d'inconscient, hausserait les épaules. Tu viens d'un monde presque englouti, où les hommes avaient des devoirs simples et des exigences impératives. Ils remplissaient le frigo, vous foutaient un toit sur la tête, des vêtements sur le cul, et pour le reste, ils n'attendaient que d'être obéis. Ils furent longtemps incontestés, dans leur bêtise, leur brutalité affectueuse, leur amour distant, leur colère qui ruinait un dimanche, un réveillon ou les vacances. Ces hommes-là s'achèvent, et tu n'es plus ce Dieu de l'Ancien Testament, terrible et tout-puissant. Je te regarde, hagard, qui hésite, ne sachant plus rien du jour, de l'heure, de tes symptômes ou de l'état de tes artères. En chaussons dans un couloir d'hôpital, tu cherches une porte. Tu dis oui à tout, de crainte d'être démasqué dans tes oublis. Tu souris, voilà ce qu'il te reste, enfin doux parce que faible. Et ce soir, tu me demandes où est maman. Tu as tout perdu de vos déchirements. Tu ne sais plus rien de ces années judiciaires, de la brouille pleine de calculs et d'ergotages qui vous a transformé en adversaire. Tu es perdu et tu l'attends. Je dois alors reprendre l'histoire du début. Et personne ne peut imaginer ce que c'est, se découvrir soudain seul, soudain vieux, soudain célibataire, avoir le remords de faute dont on n'a pas le souvenir, deviner tout un empire d'ombre où la vie patiemment bâtie s'est défaite comme à votre insu, se réveiller dans ce cauchemar, regarder ses mains, l'impuissance dedans, les murs blancs à être devenus si fragiles, si peu de choses qu'on dit à son fils des mots encore impossibles hier. Puis retourner à la nuit, au mystère de ce présent qui semble découler du vide et ne plus répondre à aucune loi. Ce présent pur où je prends ta main, comme tu tenais la mienne quand tu étais le père et moi l'enfant. Ce matin, tu t'es levé tôt pour aller prendre un train. Dans cette ville médiane, tout reposait dans le gris mauve des pierres, et lentement tu as vu le ciel monter, vert, jaune et clair, propre comme une haleine de menthe, acidulée sur le contour des toits. C'était un matin comme autrefois, quand venait la fin de l'année, qu'on tombait amoureux à l'occasion d'un voyage de classe au fond d'un bus, et qu'on sentait grandir les séparations de juillet. 9 mois interminables, soudain devenaient trop brefs. On n'avait rien vu venir. Une fille ou un garçon qu'on avait lorgné de l'autre bout de la cour se dissipait. Tu as traversé la ville, où des étudiants et des collégiens frayaient leur passage tranquille, débarrassés de leurs doudounes, de leurs bonnets. Ils avaient leurs affaires, des leçons de droit, de mathématiques et d'anatomie plein le crâne, se préparant à des examens ou à passer le BAFA. Certains, c'est sûr, avaient l'esprit libre de toute science et se laissaient porter par le climat si doux de ce début de printemps. La circulation du mercredi n'était pas si désagréable. Tout avait un air de neuf. Tu avais envie d'un café et de regarder passer les gens, te remplir de leur tendresse fugitive, profiter de cette minute identique à tant d'autres, revenue malgré la mort progressive des saisons. Et en dépit de la guerre, des lois et de l'impossibilité de la mer, malgré tes cernes et les mauvais choix, tu étais, à cet instant, l'homme le plus content de la terre. C'était Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, édité en février chez Actes Sud. Lors de la pause musicale, nous avons écouté La Superbe de Benjamin Biolay. Cette émission a été produite par Frédéric Guyon. Je vous donne rendez-vous pour un autre texte dimanche prochain à 18h02 sur Bretagne 5 ou en podcast dans vos chapitres. Je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.